France Culture.
Quelle influence a la musique sur votre développement personnel ?
Je pense que c'est comment mon développement personnel influence ma musique qui est la vraie question. La musique est ce qui se passe justement à cet endroit même. Je n'ai jamais été capable de forcer une chanson. Mes chansons sont nourries par des expériences vécues. You're bloody well right, you got a bloody right to say. Right, you're bloody well right, you know you got a right to say.
J'ai toujours aimé le saxophone. Je pense que c'est l'idée de donner plus de couleur à la musique, particulièrement si vous jouez de la clarinette, de la flûte, du saxophone. Plus il y a de couleur, plus on est content. And I create the silent movie, you become the star. Is that what you are, dear?
France Culture,
la série musicale Zoé Sphèse.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les portraits, de tous les hommages. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. C'est évidemment un groupe que vous avez forcément croisé. Certains, certaines l'idolâtrent, le tiennent pour l'un des meilleurs de l'histoire du rock, ou du rock progressif. D'autres, et on est nombreux à en faire partie, ont eu sans doute vers l'adolescence une période d'adoration pour son son inclassable, souvent imité, cité, jamais tout à fait égalé, avant d'en revenir ou de l'oublier. D'autres encore ne connaissent d'eux que les quelques immenses tubes de leur album phare Breakfast in America, sorti en 79, 10 ans après la création du groupe. Chef-d'œuvre que d'aucuns s'amusent encore aujourd'hui à chanter, à crier au karaoké, et qui a marqué à la fois l'acmé et le début du déclin, du destin de ce groupe inclassable qui a perdu cette semaine son fondateur. Ce groupe, évidemment, vous l'aurez reconnu grâce au générique de notre réalisateur Thomas Jost, c'est Supertramp, Super Clochard en anglais. Et son fondateur, c'est le claviériste génial Rick Davies, qui s'est éteint lundi à 81 ans, en ayant fait la paix, dit-on, avec l'autre grande figure de ce groupe, le guitariste, chanteur et longtemps leader, Roger Hudgens. Leur rupture de 83 n'avait pas officiellement mis fin, concrètement, à l'existence du groupe Supertramp avec ce nom qui a continué à enregistrer, à tourner et s'est même reformé au XXIe siècle sans jamais parvenir à retrouver le son extraordinaire né de la collaboration, ou plutôt on pourrait dire de la confrontation, entre Hudgens et Davies. Confrontation hyper fertile qui a livré plusieurs albums au son complètement inclassable et pourtant déterminant dans l'histoire de la musique. C'est un peu le paradoxe de Supertramp. Si ces immenses tubes, Dreamers, Breakfast in America, Goodbye Strangers, restent hyper célèbres et passés à la radio, le son du groupe, qui emprunte autant au jazz, au blues, qu'à parfois la comédie musicale ou le vaudeville, est si impossible à assimiler à un genre qu'on ne peut pas le qualifier de pionnier, justement, d'aucun style en particulier. Et pourtant, quels sont ? Si l'efficacité redoutable et l'élan pop-rock venaient bien de Roger Hudgens, auteur de la plupart des immenses tubes du répertoire de Supertramp, c'est bien le piano si caractéristique de Davies qui fait le sel de la musique de Supertramp. Et on confesse qu'on a une préférence pour cet homme à qui on doit toute la puissance narrative et dynamique de ses chansons, souvent très très longues, qui fonctionnent comme des récits, des tableaux, voire de petits films. C'est son obsession du jazz, des instruments avant qu'on doit les couleurs si étranges qui ont fait de Supertramp un groupe dont on ne sait pas s'il est américain, anglais ou même extraterrestre. Dans une émission fatalement subjective et non exhaustive, car les morceaux de Supertramp durent en moyenne 6 minutes, on tentera un portrait de ce groupe et en creux, celui d'un Ricky Davies moins bavard, moins facile à saisir que son comparse, mais qui a toute notre affection dans la série musicale sur France Culture. Take a look at my girlfriend. C'est une chanson tellement géniale, mais qui était tellement étrange la première fois que je l'ai entendue. Je connaissais Supertramp en Fouca de nom, et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est tellement évident comme ça au début, avec ses paroles, regardez ma copine, c'est la seule que j'ai. Et puis il y avait tout du long ce saxophone et cette basse, qui joue en espèce de thème étrange, presque vaudevillien. On se dit, mais c'est quoi ce truc? Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis après, on se dit, mais en fait, c'est brillant. C'est tellement inhabituel, c'est drôle. C'est une chanson qui se prend pas au sérieux. Alors que pour moi, Supertramp, c'était vraiment un groupe qui se prenait vraiment au sérieux. Le commentaire du journaliste John McKenzie qui décrit bien ce qu'il a ressenti. La première fois qu'il a entendu ce titre, l'un des plus courts de la carrière de Supertramp, à peine 2 minutes. Un titre qui marque finalement la célébration, l'acmé de cette rencontre assez folle, entre plusieurs musiciens évidemment, mais surtout la puissance créatrice de deux hommes qui ont vraiment réussi à dialoguer jusqu'à un certain point. Supertramp, c'est un peu l'acmé de l'histoire des groupes qui se forment l'année où se séparent les Beatles, puisqu'on est en 69 quand les deux hommes se rencontrent, avec une genèse qui est un peu complexe, et qui, à l'instar de Paul McCartney et John Lennon, vont co-signer la plupart des tubes de ce groupe, ce qui sera un énorme problème, car évidemment, certaines des compositions sont très largement bien plus écrites par Roger Hodgson et d'autres beaucoup plus par Ricky Davis. Mais c'est cette confrontation assez magique, et c'est, peut dire, une espèce de parabole de ce que peut un groupe quand se rencontrent deux univers, deux manières d'approcher la vie qui sont tout à fait différentes et qui donnent l'espace de quelques années, de quelques albums, en l'occurrence presque 14 ans pour ces deux hommes, une rencontre créative absolument inclassable. Qui étaient ces deux messieurs et qui était Rick Davies? On parle de lui en tant que fondateur, car c'est bien lui qui, après des débuts extrêmement difficiles, va rencontrer un banquier, ou en tout cas un homme d'affaires suisse qui va croire en lui, le pousser à créer son propre groupe et recruter, par le biais d'une petite annonce, un musicien. Ce musicien, c'est donc Roger Hodgson. On va revenir sur la genèse de ces deux garçons qui, au moment où ils fondent ce groupe, Supertramp, viennent de deux écoles, de deux, finalement, envies de musique qui sont assez diamétralement opposées. Ils ont des matrices communes, bien sûr, mais des sons, des références qui sont tout à fait différentes. C'est sans doute ça qui va nous passionner, les passionner. Il y a évidemment une différence d'inspiration, il y a aussi une immense différence de classe, puisque si Roger Hodgson vient des classes plutôt supérieure, Rick Davies, lui, est un garçon qui vient de cette Angleterre très laborieuse et qui a découvert la musique justement dans des conditions qui ne sont absolument pas celles de son comparse. Écoutez Ricky Davies nous raconter comment il a découvert le piano. Comme tous les enfants de mon époque, j'ai écouté tous les pianistes de rock'n'roll, Chuck Berry. Et moi, mon grand plaisir, c'était de jouer sur le piano des voisins. J'avais ces voisins qui m'hébergeaient le temps que ma mère rentre du travail. Leur fils m'a appris à jouer du boogie-woogie. Et j'ai commencé à écouter Jimmy Reed, j'ai découvert tous ces vieux gars du blues. C'est en fait vraiment comme ça que je me suis mis à la musique, très à l'arrache. Plus tard, je me suis rendu compte qu'il aurait fallu que je joue de la guitare, c'était ça qui m'intéressait. Mais je m'étais déjà mis au piano et c'est pour ça que je pense j'ai choisi un piano électrique. C'était ce qui se rapprochait le plus en termes de son de la guitare. We'll be right back. Un peu comme les Beatles avaient découvert évidemment le rock et ses débuts avaient beaucoup emprunté à de nombreux pionniers du rock, notamment Little Richard avec qui ils avaient tourné. Il y a ce fantasme du blues, ce fantasme d'une musique originelle américaine chez ce Rick Davies qui pourtant donc naît en Angleterre dans une famille ouvrière assez éloignée finalement et qui a ce fantasme du blues, un fantasme qui pénètre en fait quasiment tout ce que fera Superstrump et qui s'entend très bien dans de nombreuses chansons, la référence, cette manière en fait de traiter la musique comme s'il était un bluesman. On l'aperçoit dans bien des chansons, dans bien des structures. On va parler évidemment de la manière dont il traite son piano, mais ces harmonicas du blues qu'il a beaucoup écouté enfant, on va les retrouver dans certains des très très beaux titres de Supertramp, et notamment cette immense chanson School qui fait partie du troisième album de Supertramp paru en 1974, Crime of the Century, un morceau hyper ambitieux qui décrit, en tout cas qui évoque la manière dont l'école enferme. On est dans une école britannique, système éducatif anglais extrêmement sévère à l'époque, un peu à la manière de ce que fera Pink Floyd plus tard. Ce school qui s'ouvre sur un solo à l'harmonica joué par Rick Davies comme une évocation d'un rêve de liberté. school, une très belle manière d'entrer dans cet univers de Supertramp qui est arrivé à cet album, on peut dire, avec Crime of the Century. C'est le début de la maturité pour ce groupe où on entend très bien dans ce morceau de 5 minutes 12 en tout cette intro à l'harmonica, cette progression très Ennio Morriconesque, on peut le dire, extrêmement cinématographique, avec des passages très expérimentaux qui mêlent bruit d'enfant, et puis ce piano qui se fait très bluesy, qui a des relents parfois de piano d'Elton John, et oui, car Rick Davies a collaboré avec un très jeune Elton John avant de lancer Supertramp, on le sait peu. Vous l'entendez finalement, cette confrontation entre cet imaginaire bluesy d'un Rick Davies dont le premier groupe à lui s'appelait Rick's Blues, justement. C'était un vrai groupe de blues et qui, dans toute sa folle jeunesse, une jeunesse un peu difficile, marquée notamment par la mort de son père avant de fonder Supertramp, beaucoup d'expérience dans des groupes de rock'n'roll, dans des groupes de soul et de ce qu'on appelle à l'époque évidemment le R&B, c'est-à-dire des groupes qui reprennent cette espèce de matrice du rock'n'roll face à lui. Quand il va monter Supertramp, il va se trouver confronté à cet homme, Roger Hodgson, qui lui vient d'un autre imaginaire, un imaginaire qui est somme toute relativement banal pour un jeune musicien anglais qui serait né comme est né Hodgson en 1950. C'est un imaginaire beaucoup plus marqué par un désir de pop, la musique pop qui vient de naître évidemment grâce à un groupe, les Beatles.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Across the Universe, une chanson idolâtrée par un Roger Hodgson qui naît, contrairement à Rick Davies, dans une famille plutôt cossue, qui divorce certes rapidement, mais qui naît à Oxford et qui a les moyens, le premier homme d'ailleurs, qui est le premier à bénéficier d'une guitare électrique dans les années 50, cadeau de ses parents justement qui viennent de divorcer. Il va passer beaucoup de temps en pension, il n'a pas, comme Rick Davies, à travailler, à suer pour apprendre la musique et se payer des instruments. Il va très vite se faire remarquer localement, devenir enregistrer des solos de guitare pour plusieurs groupes, People Like Us, et ensuite dès 69 rentrer dans une maison de disques, être remarqué par Island Records. C'est lui, et c'est pas Davies, qui va collaborer avec un jeune Elton John qui s'appelle encore à l'époque Reginald Dwight. C'est lui qui va répondre à cette petite annonce lancée par un Rick Davies décidé à monter un groupe qui serait un groupe de composition originale. Écoutez-le parler de son admiration pour les Beatles.
I can only tell you
Moi, je peux vous parler de mes héros de jeunesse. J'étais évidemment un ado quand les Beatles ont explosé. Pour moi, ils ont explosé absolument toutes les barrières de ce qui se faisait musicalement. Et tout ce que j'ai pu faire n'a été possible que grâce à eux. Lennon, en particulier, a pris le fait d'écrire des chansons et en a fait la possibilité de parler de choses réelles, de parler de vulnérabilité, de parler de ses joies, de ses souffrances. Et je pense que c'est celui qui me touche le plus dans les Beatles, même si je les aime tous. Il y a une seule chanson que sur scène je chante qui ne soit pas de moi, une seule dans toute ma carrière. C'est la chanson que j'aurais aimé avoir écrite, c'est « Across the Universe ». There's a way I could please you. Only in your past lie the tears. Surely there's a day you can say, went your way, some illusion you can keep through the years. Only if I lie. Surely, un titre hyper court qui ouvre en fait le tout premier album de Supertramp que vous ne connaissez pas nécessairement. Il date de 70 et c'est le premier essai, on va dire, de ce jeune groupe qui a décidé, à l'instar des groupes Spooky Tooth et Traffic, d'enregistrer la nuit pour essayer de créer une ambiance. Dans cet album, c'est essentiellement Roger Hodgson qui chante, car à son audition, c'est bien sa voix et sa capacité de leader qui ont beaucoup impressionné Rick Davies. Vous entendez vraiment dans ce Surely l'énorme influence des Beatles. On est très très loin du Supertramp que vous connaissez et on a l'impression presque d'entendre du John Lennon. Évidemment, entre ça et Crime of the Century en 74, il va se passer beaucoup de choses et notamment une affirmation, en tout cas une création d'un style commun avec Rick Davies qui, d'une part, sur ses premiers albums, ne chante pas. Il trouve que sa voix n'est pas assez bonne. Ça va évidemment changer, mais pour revenir à ce qui structure ce piano de Supertramp qui va faire en fait tout le sel du son et que là on entend à peine, hein, vous avez entendu dans cette chanson, on va revenir sur le grand choc, ce qui finalement permet de comprendre toute l'approche de Rick Davies au piano et donc toute l'approche de cette espèce de pulsation qui nourrit le son Supertramp. C'est la révélation pour notre ami Rick Davies lorsqu'il entend ça.
That's what got me into music.
Il y a eu une vraie bascule dans ma vie, il faut le dire. Mes parents ont acheté ce qu'on appelait à l'époque un radiogramme avec des morceaux programmés. Un des morceaux, c'était Drum and Man par Gene Krupka. Et je peux dire que c'est à ce moment-là que j'ai eu le virus de la musique. Et en fait, mon rêve, c'était de jouer de la batterie, c'était d'être percussionniste. J'ai essayé d'apprendre sur les drums comme ça, un peu en autodidacte, et j'étais vraiment prêt à gagner ma vie de cette façon. Sauf que les gens n'étaient pas du tout intéressés par ma batterie, c'était mon piano qui voulait.
Put on old brown shoes, right on your feet. paid your dues. You did all you could. And time to move on. No more to say. You and me were helpless, can't you see? You gotta get away, get away. You gotta move on till the madness around is gone. The rest of our life will be free.
Voilà une chanson, Put on Your Old Brown Shoes, référence d'ailleurs à une chanson des Beatles, Old Brown Shoes, composée par George Harrison, qu'on n'a pas le temps de vous passer, mais qu'on affectionne, hein, qui raconte bien cette relation de fantasme. En même temps, ce fantasme du blues qui est passé en fait à travers le prisme de cet héritage très britannique. Et on entend en fait ce fameux piano, ce piano de Rick Davies, qui, on l'a dit, vous l'avez entendu dans cet archive, en fait, rêvait d'être batteur. De la même manière qu'en fait, il a fait avec ce qu'il avait, c'est-à-dire un piano chez ses voisins. Il aurait aimé être guitariste, il aurait aimé être batteur, et finalement son piano, bien qu'il soit toujours un clavier qui va essayer de jouer à peu près de tous les claviers possibles, imaginables, ce piano, il reste très percussif. Il a ça en lui, qu'il veut faire plus qu'être simplement un piano. Il a une capacité de récit, et notamment c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que plus le groupe avance, plus Rick Davies va tenter de jouer la carte du dynamisme au sein des morceaux de plus en plus dynamiques qui ont des logiques qui justement plaisent à cet homme qui est assez fan en fait de construction, de vraie construction, face à un John Hutchison qui lui est beaucoup plus doué pour trouver des riffs, des sons, des tonalités qui se révéleront efficaces. Alors, comment elle est née, cette formation de Supertramp? Elle est née parce que Rick Davies, avec son premier groupe, The Joints, tourne, a beaucoup de difficultés, qu'il rencontre un mécène néerlandais, qui va être d'accord pour le soutenir sur un projet musical qui serait à lui, le pousse donc à lancer cette petite annonce auquel Hudson, poussé par sa mère, va répondre. Les deux premiers albums de Supertramp, qu'on peut pas trouver par exemple sur les plateformes de streaming les plus communes, sont des albums intéressants parce qu'ils contiennent en germe beaucoup de choses qui nous feront aimer le groupe, mais que le son n'est pas du tout arrivé à maturité. Néanmoins, on a quand même envie de vous donner à entendre un titre, deux titres en fait, rassemblés en un, qui ouvrent leur premier album, Obad and I Am Not Like Other Braves of Prey. On a d'abord petit Obad à l'orgue Hammond, ce clavier privilégié par les jazzmen que Rick Davies adore, qui enchaîne sur une ballade qui, pour nous, a un souffle épique complètement bouleversant. Je ne suis pas comme les autres oiseaux de proie, qui préfigurent les thèmes de prédilection qui seront ceux de Supertramp. Sortir de la norme, ne pas se laisser enfermer, avoir des rêves.
Every night is a fire.
On doit dire qu'on est assez bouleversé par ce titre qui est le troisième titre du premier album de Supertramp, sobrement intitulé Supertramp. On est en 1970. Alors c'est pas un album rock. Le deuxième, le suivant, sera beaucoup plus rock, mais on est encore loin dans Indelibly Stamped de cette rencontre, de ce fameux mélange qui arrivera à maturité juste après. Tous ces débuts qui vont être assez poussifs, on peut le dire, puisque ça ne marche pas très bien. Tous ces débuts et cette espèce de croyance dans l'idée qu'on va pouvoir y arriver, on les doit justement à ce fameux Sam Miseygas, de son vrai nom, cet homme d'affaires néerlandais, mais dont Rick Davies dit qu'il est suisse, qui, on a du mal à comprendre comment, à la rencontre qu'il fait avec Rick Davies à Munich en 1969, développe la vraie croyance qu'il est face à un génie. Il va financer ce groupe et le financer envers et contre tout. Écoutez ce que Rick Davies, toujours très pudique à l'endroit de son propre destin, dit de cette rencontre, de cet homme qui va non seulement les manager, leur donner du matériel et les mettre en relation avec certains des meilleurs ingé-sons de l'époque.
Sam
vit en Suisse. J'étais avec mon ancien groupe, The Joints, et on a vraiment fait des tournées hyper dures en Europe. On n'avait pas de van, on n'avait pas de matériel, tout était cassé. On connaissait un type qui connaissait Sam, et il lui a demandé s'il avait envie de nous manager. Et il a accepté, ce qui était complètement une surprise, puisqu'on n'était vraiment personne. Et il est devenu très intéressé par nous. C'est lui qui nous a managé. C'est lui qui a produit les deux premiers albums de Supertramp. Je ne sais pas comment décrire ce qu'il est pour moi. Il a développé un intérêt particulier pour moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Il a semble-t-il vu des choses que moi, je ne voyais pas en moi-même. Et il a vraiment voulu porter ma carrière alors que franchement j'étais personne. Mais je crois que son grand plaisir à lui, c'est de voir quelqu'un se réaliser.
It may come.
Rudy, extrait à l'instar de School, avec lequel on a ouvert cette émission, du troisième album de Supertramp, celui avec lequel le groupe va trouver son son à la manette du côté de l'ingé son. C'est un Sud-Africain, Russell Pope, qu'on a souvent surnommé le sixième membre de Supertramp, qui donne vie à ce morceau, un morceau, Rudy, qui, un petit peu à l'instar de cet album, aborde frontalement les questions qui vont beaucoup intéresser Supertramp, c'est-à-dire un jeune homme qui a 100 buts dans sa vie, un album qui aborde la démence, la folie, la dépression, et qui, comme vous l'entendez dans cette progression, qu'il m'est très difficile, oui, de couper, on passe évidemment de grands moments de solitude, de grande tendresse à ce piano, ces guitares, ces basses hyper sombres, et dans cette envolée finale qui relève presque du disco, on est en 74, hein, avec un BPM qui s'accélère, on est sur des morceaux qui, à l'instar de ce que fait Pink Floyd la même année avec l'album The Dark Side of the Moon, est en train d'inventer véritablement le rock progressif. On a aussi une pochette d'album qui, pour une fois, prend en compte l'idée que les membres d'un groupe sur une photo s'est dépassé, qu'il s'agit plutôt d'une illustration de manière à ce que l'imaginaire parte. Ce son de Supertramp, qui est, on le rappelle, un groupe quasiment intégralement anglais, va beaucoup surprendre et rencontrer évidemment un vrai succès avec d'autant plus ce titre extrêmement mystérieux de l'album, mais aussi de la chanson finale, Crime of the Century, le crime du siècle. N'est jamais nommé ce crime. On peut tous s'y projeter. Écoutez, Jerry Erwing, critique spécialiste de Supertramp, expliquait justement en quoi le son de Supertramp déroute à l'époque, son qu'on a souvent qualifié d'américain du fait justement de ce piano extrêmement rythmique, de ses références incessantes au blues ou justement à cette approche hyper rock qui serait celle justement des Led Zeppelin. Écoutez ce qu'il en dit. Rudy, comme Asylum, est une chanson écrite par Rick Davies. Et en fait, elle donne à voir, malgré le fait qu'elle est très moderne, tous les genres de jazz qu'il aime, c'est-à-dire du jazz, du R&B, et donc ça donne un son américain. Mais ce n'est jamais totalement ou trop américain, parce qu'en fait, Supertramp n'a vraiment jamais sonné comme un vrai groupe américain. Behind you. Ain't Nobody But Me, un des superbes titres écrits par Davis pour le quatrième album de Supertramp, Crisis, What Crisis. Après l'énorme succès commercial de Crime of the Century en 74, la maison de disques de Supertramp va les inviter à créer un nouvel album. Il y a toute une série de concerts assez faramineux qui sont organisés. Ils développent un jeu de scène et notamment toute une, dans ces années 70, toute une logique de lumière, vrai travail sur la scène qui va beaucoup marquer, avec notamment un vrai travail des ingé-sons pour le live. Néanmoins, pendant ces concerts, Roger Hodgson va se blesser à la main, ce qui va faire qu'il va beaucoup composer, puisqu'il n'a pas grand-chose à faire d'autre que travailler sur son nouvel album, qu'il n'aimera pas beaucoup, il le trouve trop décousu. Nous n'avions pas la même cohérence que sur Crime of the Century. On considère, nous, pourtant, que c'est vraiment un excellent album. On y trouve un espèce d'opéra rock qui préfigure très largement ce que fera Queen, a Soapbox Opera, écrit par Hodgson, ou ce Ain't Nobody But Me, qui pour nous rassemble toute une série des caractéristiques très propres à Scam Davis, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très efficace, mais ce piano qui est presque un peu vaudevillesque, un peu cabaret berlinois, et ses couleurs de saxophone, de clarinette, tous ces instruments qui sont absolument pas tout à fait utilisés dans la pop de l'époque, même s'il y avait vraiment eu un gros boost de pop orchestral, hein, qui intéressait beaucoup Hodgson, mais qui se limitait quand même à faire se rencontrer la musique symphonique et le rock. Écoutez Rick Davis évoquer justement sa passion, qui en a agacé certains, hein, dont nous, pour le saxophone et toutes ces couleurs qu'il tente de donner à la musique.
Well, I mean, I've always liked saxophones.
Moi, j'ai toujours adoré les saxophones. Là, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus les mêmes qu'au début. John a pris le relais d'un type qui s'appelait David. Je crois que pour moi, c'est juste l'idée d'ajouter de la couleur à la musique. Quand vous utilisez de la clarinette, de la flûte, du sax, moi, en fait, plus il y a de couleurs, plus je suis content. Alors, qui compose, qui écrit? C'est principalement Roger et moi. On essaye de composer, enfin, on compose tous les deux, quoi. Et alors, vous aimez tester des nouveaux numéros? Est-ce que vous testez des morceaux sur scène? Non, c'est absolument impossible pour nous. Nos morceaux sont beaucoup trop complexes. Il y a toujours Sam et nos autres ingé-sons qui essayent de s'adapter, de construire quelque chose de vraiment à la hauteur de ce qu'on a écrit. Tout est calibré. Une fois qu'on a fini d'enregistrer, on fait un énorme travail sur les arrangements. Donc ce serait impossible de jouer une chanson sur scène sans prendre en compte tous ces éléments.
Ce serait
impossible de jouer une chanson comme ça. On ne saurait absolument pas ce qui se passe.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh,
on vous a mis Alabama Song des Doors, qui a aussi été une référence hyper importante pour Hodgson dans le côté très pop et dans la version rock de ce qui l'intéresse. Mais nous, on trouve, et ça s'entend beaucoup plus dans cette chanson qui est une reprise de Kurt Weill, qu'il y a quelque chose de très Kurt Weill, en fait, aussi, dans le piano de Rick Davies. C'est une influence qui n'est pas souvent notée, mais dans cette sensation d'étrangeté qui est construite dans des morceaux qui, à la fois, filent droit, mais qui créent toujours une sensation de doute. Après Crisis Not Crisis, qui va avoir un immense succès, notamment parce que le titre de l'album, Crise ou pas crise, est repris par la presse pour commenter la vie très mouvementée politique en Angleterre à l'époque. Un autre album, Even in the Quietest Moment, même dans les moments les plus calmes, cinquième album de ce groupe qui est enregistré entièrement aux États-Unis, en Colorado et en Californie. C'est le fameux rêve américain que le groupe va vivre pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Toute une série d'immenses chansons, Give a Little Bit, sur lesquelles on a ouvert cette émission, des tubes. Et puis, ces immenses, immenses plages, The False Ouverture qui referme et la chanson qui donne son titre à l'album. Even in the quietest moment, on a peu parlé des sujets que Supertramp porte, mais notamment ils ont style, voilà, cette posture de doute, de vulnérabilité face à la vie, face au monde. C'est un album important, Even in the quietest moment, puisque alors que leur fidèle producteur Ken Sexsmith, avec lequel ils comptaient travailler, n'est pas dispo, et ben ils vont engager Geoff Emerick, l'ingénieur du son totalement légendaire des Beatles. C'est lui qui va assumer le mixage et introduire aussi Pete Anderson, qui va vraiment beaucoup aider à créer le son de leur prochain album, l'album que vous connaissez le mieux. C'est le fameux Breakfast in America qui a ouvert cette émission et avec lequel évidemment on va se quitter. Un enquillage de tubes, l'un des albums les plus vendus évidemment du groupe, mais d'ailleurs de l'année, parmi l'enfilade de tubes qu'on trouve dans ce disque extrêmement bien conçu, qui tire de plus en plus la carte de l'humour, la carte de l'étrangeté. Et en ça, on peut y voir quand même une forme de triomphe de Rick Davies, qui a instauré ses couleurs et qui, malgré sa beaucoup plus grande discrétion, hein, beaucoup moins d'interviews de lui que de Hodgson, a fini par s'imposer. On lui doit, pour nous, l'une des plus belles chansons de cet album, Goodbye Stranger.
No. yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me. Troubles will be few.
À se quitter sur cet adieu et sur son incroyable piano. Vous aurez compris qu'il arrive à nous parler de bien des endroits. On passera sur la fin tristoune de Supertramp, mais on remercie ce stranger, ce timide et brillant Rick Davis de nous avoir livré tout cela. Merci beaucoup à Antoine Guillot et Daniel Sanchez pour leur concours sur cette émission, ma foi bien trop courte, à Thomas Jost, son réalisateur, à la merveilleuse Laura Dutèche-Pérez, qui est son incroyable attaché de production, ainsi qu'à Grégory Wallon, qui était aux manettes aujourd'hui. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de la série musicale.